Votre grand journal de soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard.
Faites-vous confiance à la justice, c'est notre débat ce soir avec mes invités qui sont en train de s'installer en studio. Je suis ravi de les recevoir. Nous sommes avec Christophe Soulez, chef de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous avez dirigé cette étude dont nous parlons ce soir, la justice pénale et ses critiques, analyse de l'opinion sur la justice et les tribunaux dans le traitement de la délinquance. Youssef Badr est avec nous également, porte-parole du ministère de la Justice. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de la chancellerie et magistrat.
Absolument.
Ce soir dans le débat. Et Maître Laurence Roch va nous rejoindre, présidente du syndicat des avocats de France, avocate au barreau du Val-de-Marne. Faites-vous confiance à la justice, vous allez intervenir au 39-21, évidemment, d'ici à 20h. Mais d'abord, Benjamin Muller.
Bonsoir.
Bonsoir Benjamin.
Bonsoir.
Comme chaque soir avec vous, on voit comment les médias, radio et télé traitent un sujet de l'actualité. Aujourd'hui, un sujet qui est tout sauf consensuel.
Oui, vous allez voir, c'est vraiment le sujet de toutes les engueulades.
Notre santé, à présent, avec la riposte des partisans de l'homéopathie.
Oui, intéressant débat entre les pros et anti-homéopathie, alors qu'il est question de ne plus les rembourser. Alors déjà, la particularité de ce débat, c'est que vous entendez des gens, comme ici sur BFM, faut vraiment être spécialiste pour piger quelque chose.
On m'a prescrit l'hypophyse en 9CH, Cardus en D4...
Rien compris, mais c'est pas grave. Dans ce débat, vous entendez aussi des gens qui sont pour, mais qui sont contre, comme Laurent Ruquier sur RTL.
Moi, j'avoue qu'à la fois j'en prends et à la fois je suis sceptique tout de même. Mm-hmm. C'est assez fou ça, vous voyez ce que je veux dire.
Ah oui, on voit. Alors bon, pour être franc, la plupart des gens qui prennent la parole ces temps-ci sur le sujet ne sont pas si mitigés avec cet argument, l'argument ultime des pro-homéopathie.
Alors, je voudrais poser la question à ceux qui combattent l'homéopathie. Comment se fait-il qu'elle marche sur les animaux? Parce qu'on parle toujours de phénomènes psychologiques.
Alors là, si vous êtes comme moi, que vous découvrez la chose, vous vous dites, bah, des animaux qui vont mieux grâce aux homéopathies, c'est dingue. C'est justement le sens de l'appel d'une certaine Marguerite qui a appelé Jean-Jacques Bourdin ce matin sur RMC.
Ouais, Marguerite.
Oui, je suis là.
Dans l'Isère, Marguerite. Alors l'homéopathie, vous avez une poule.
Oui, qui a très mal aux pattes et tous les soirs, elle prend son homéopathie.
Wow.
Incroyable, une poule qui du coup n'a plus mal aux pattes.
Néanmoins, votre poule va bien.
Ma poule prend son homéopathie et elle le demande.
Elle le demande en plus, c'est vraiment fort l'homéopathie. Troisième spécificité de ce débat, bah tiens, c'est vous Mathieu qui allez nous dire.
Quand nous parlons d'homéopathie assez régulièrement, le débat qui est vif...
Quoi? Les débats qui sont vifs sur le sujet? Là vous exagérez Mathieu, comme souvent. Par exemple, ici même hier, ça s'est bien passé non?
Pour le coup, vous êtes très confraternel. Chut, on vous a dit de vous taire. Mais non, vous ne parlez pas comme ça.
Ah oui, d'accord. Alors je précise, à ce moment, le débat n'avait commencé que depuis une petite minute.
Moi, j'ai un grand respect des autres. Je n'attaque pas les personnes, comme je l'ai entendu à l'instant.
Stop.
Alors là, vous avez entendu, Ambline. Mathieu, il a pris sa grande voix. C'est rare qu'il prenne sa grande voix, mais là, il l'a pris. C'est marrant, si on ferme les yeux, on n'a qu'à tous essayer. Là, on imagine bien chez vous, Mathieu, quand vos enfants font un peu le bordel à l'heure du coucher.
Stop. C'est moi qui dis stop.
Ah ouais, on y est. Les enfants, le bain au lit. Bon, pour revenir à l'homéopathie, la conclusion, bah c'est encore vous, Mathieu.
Messieurs, j'arrive à organiser des débats ici avec des gens qui sont sur des désaccords bien plus profonds que les vôtres, je vous assure.
Oui, c'est vrai qu'on peut débattre des gilets jaunes, de la loi casseur, voire même de la justice. C'est beaucoup plus calme.
Mais des granulés d'homéopathie,
non.
Ça va bien se passer, messieurs. Christophe Soulez, Youssef Badr, on va se parler courtoisement. Courtoisement, ça se dit ? Avec courtoisie. Vous êtes sur Europe 1, il est 19h27.
Europe 1.
Étude vraiment intéressante, publiée dans le Figaro ce matin. 2 Français sur 3 mécontents de la justice. Et je vous pose cette question. Faites-vous confiance à la justice ? Vous intervenez au 39-21. Deux de mes invités sont là. Laurence Roch arrive, présidente du syndicat des avocats de France. Un petit souci de taxi, de bouchon, ça arrive. On est à Paris. A tout de suite sur Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 et vos invités, Mathieu Béliard ce soir, Christophe Soulez, chef de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, et Youssef Badr, porte-parole du ministère de la Justice et magistrat.
On va le dire très clairement, Christophe Soulez, quand on regarde cette étude que vous avez dirigée, 2 Français sur 3 mécontents de la justice, il y a une rupture entre les Français et les magistrats.
Je ne sais pas si on peut parler de rupture, mais en tout cas, il y a sûrement une forme d'incompréhension, qui n'est pas propre d'ailleurs à la France. Dans la plupart des pays, l'institution judiciaire n'est effectivement pas nécessairement celle qui recueille le meilleur code de satisfaction. Parce que je pense qu'effectivement, le système judiciaire est complexe à comprendre pour la plupart de nos concitoyens. Et d'autre part, c'est également sûrement dû au fait que parfois, il y a une déconnexion entre ce que vivent les concitoyens, nos concitoyens, et les décisions qui peuvent être rendues par les magistrats. Et ça, c'est effectivement, c'est ce qui crée peut-être parfois un fossé. Encore une fois, je pense que c'est plus de l'incompréhension qu'un manque de confiance dans l'institution elle-même.
De l'incompréhension manque de confiance. On va voir, hein, parce que j'ai vraiment beaucoup d'appels ce soir qui sont absolument passionnants. Mais d'abord, Youssef Badr, je voudrais savoir comment est-ce que cette enquête, cette publication a été reçue à la chancellerie ?
En fait, c'est un sentiment qui est double à la fois, toujours un peu surpris, surtout quand on est dans le cœur du métier, de l'activité de magistrat, et puis à la fois aussi pas étonné, pour une raison très simple. Pas étonné parce qu'en fait, si on réfléchit juste sur le rôle de la justice est là pour trancher des litiges. Donc en fait, dans le meilleur des cas, vous avez donc un demandeur, un défendeur. Dans le meilleur des cas, vous avez un satisfait et quelqu'un qui est mécontent. Dans le pire des cas, ce qui peut arriver, vous pouvez avoir deux mécontents. Mais le rôle de la justice, en fait, je me posais la question, je me demandais en fait, est-ce que finalement l'institution judiciaire est là pour être aimée, est là pour être comprise, ça c'est certain, mais est-ce que finalement, fondamentalement, c'est le rôle de la justice que de se dire que les gens puissent en parler en disant oui, effectivement, nous sommes totalement satisfaits de l'institution judiciaire. Elle est là pour trancher, en fait. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un élément, j'allais dire, parce que ce qui m'interpellé dans l'étude, c'est de me dire, il y a quand même des gens, des citoyens qui n'ont pas eu affaire à la justice et qui ont une image négative. Et là, je me dis, il y a quand même un fossé. Un fossé, premièrement, une méconnaissance probablement du travail qu'on fait, mais quand je parle de l'institution judiciaire, j'englobe moi en fait tout le monde, toute la chaîne pénale, que ce soit les policiers, les avocats, évidemment, notamment à l'audience, qui accompagnent aussi les justiciables, le greffe, les magistrats, donc toute l'institution judiciaire. Et je me dis, quelle est l'image finalement qui est renvoyée médiatiquement aussi à ces citoyens qui n'ont jamais eu affaire à la justice et qui pour autant ont une image négative. Donc je me dis que finalement, quand on voit l'activité qu'on a au quotidien, quand on voit à quel point c'est difficile d'être magistrat, quelle que soit la fonction, c'est des dossiers qui vous suivent en permanence, y compris en vacances, en week-end, vous y pensez en permanence parce que vous devez trancher, que soit en matière civile, soit en matière pénale, vous avez la vie des gens entre vos mains. Donc d'un côté, je me dis que c'est quelque part un peu injuste par rapport à la difficulté du métier, et de l'autre côté, je me dis finalement, est-ce que c'est pas le rôle de l'institution judiciaire que de faire aussi des mécontents ?
Vous avez parlé de la police, un enseignement dans cette enquête, Christophe Soulet, certains se sont dit surpris, moi pas. Les forces de l'ordre sont deux fois plus populaires que les magistrats.
Oui, mais ça c'est pareil, ça apparaît dans les enquêtes d'opinion depuis très très longtemps, contrairement effectivement à ce que parfois on peut dire, ce que les syndicats de police disent, etc. L'institution policière, le corps policier est plutôt une administration qui est plutôt appréciée par le concitoyen. Tout dépend également des territoires, tout dépend de la période à laquelle on interroge effectivement les personnes. Mais là aussi, parce que je pense qu'il y a une plus grande proximité entre le fonctionnaire de police ou le militaire de la gendarmerie avec nos concitoyens, des interactions qui sont quasi quotidiennes et ce qu'on n'a pas nécessairement effectivement avec la magistrature. En revanche, je crois qu'il y a quelque chose quand même aussi qui est intéressant à soulever dans l'étude, c'est qu'on a des profils différents, de personnes qui se disent insatisfaites, mais effectivement avec des insatisfactions qui portent, je dirais, sur des domaines très différents. Et il y a quand même quelque chose qui ressort aussi, c'est que il y a une partie quand même de ces insatisfaits qui sont insatisfaits parce qu'on ne donne pas suffisamment de moyens à l'institution judiciaire pour remplir son rôle. Que ça soit en termes de sévérité des peines ou au contraire dans le cadre des politiques d'intégration et de prévention.
On va parler justement des moyens alloués à la justice. Laissez-moi juste saluer Laurence Roch qui vient de nous rejoindre au studio. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Le trafic à Paris, on sait ce que c'est. Présidente oui. Du syndicat des avocats de France, avocate au barreau du Val-de-Marne. D'abord, c'est simplement, première réaction que vous avez eue en découvrant les résultats de cette enquête, 2 Français sur 3 mécontents de la justice.
Bon, je ne suis absolument pas surprise. Nous, avocats, justement, au quotidien, on reçoit les justiciables et on sait parfaitement qu'en effet, ils ne sont pas contents de leur justice. C'est quelque chose qu'on a toujours porté. Parce que, alors, ils ne sont pas contents d'abord parce que la justice est lente en général, c'est ce qu'ils lui reprochent, et de ne pas avoir de moyens. Et pas avoir de moyens, je pense que tous les professionnels de justice qui exercent au quotidien sont en effet conscients de l'absence de moyens. Sans moyens, on ne peut pas faire, malgré toute la bonne volonté de chacun, une bonne justice.
Je reprends un argument que donnait Youssef Badr juste avant votre arrivée. Il y a quand même une réalité, quand on parle de justice, on tranche un litige, on a forcément un mécontent et un satisfait.
Oui, mais je crois que, alors, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas ça que je pense que les partis peuvent très bien comprendre de perdre ou de gagner dès lors que, un, on leur explique et dès lors qu'ils ont eu le sentiment qu'ils ont pu s'expliquer que justice a été faite. Ça n'a strictement rien à voir. Et justice a été faite, ça suppose quand même une certaine oralité, c'est-à-dire que les partis ont pu s'expliquer et qu'elles ont pu aller au bout de toutes les procédures d'appel ou de pourvoi en cassation potentielle.
Youssef Badr, la justice, je reviens à ce que disait Christophe Soulez à l'instant, la justice en France manque de moyens ?
Ah oui, la justice manque de moyens. Je veux dire, dire l'inverse serait une aberration.
Je redonne juste un élément chiffré pour nos auditeurs. En France, on contribue à hauteur de 66 € par an par habitant. C'est deux fois moins qu'en Allemagne. L'exemple suisse, c'est 215 €.
C'est quelque chose qui est connu. Cette étude, je crois, si je ne me trompe pas, elle est faite 2013-2017. C'est très simple. Je me suis amusé juste avant de venir de regarder le nombre de magistrats. Le nombre de magistrats en 10 ans. En 10 ans, on en a perdu 80. En 10 ans, donc sur les 10 dernières années. C'est bien simple, la population, je crois qu'elle est en constante augmentation, on a perdu en nombre de magistrats. Et d'ailleurs, évidemment, on peut toujours critiquer et dire « c'est pas assez, c'est pas assez ». Heureusement, aujourd'hui, ce qu'on constate, et ça a été dit à maintes reprises, c'est que, heureusement que dans l'exercice, j'allais dire général, le budget de la justice est encore aujourd'hui celui, un des seuls, qui est en augmentation. Donc, il y a un peu plus d'argent supplémentaire, il y a des effectifs aussi supplémentaires. La ministre l'a dit et redit, on est sur à peu près l'ordre de 6 500 emplois supplémentaires. Alors, j'englobe tout le ministère de la justice, mais je pense qu'il y a deux choses. À mon avis, il y a une question de moyens, qui est une réalité, ça c'est vrai. Et ensuite, effectivement, sur ce que disait Laurence Roch à l'instant, c'est effectivement la question de se dire, plus on a de moyens, plus on a de magistrats ou plus on a de personnel de greffier, et effectivement, plus on a la capacité de passer du temps avec le justiciable. Et ça, effectivement, c'est une réalité. Et je pense, effectivement, alors, vous trouverez aussi parfois des justiciables à qui vous expliquerez une décision et qui seront insatisfaits, mais on a quand même coutume de dire que, généralement, une décision expliquée est une décision qui est acceptée, est une décision qui est comprise.
19h36. Europe 1. Vous restez bien sur Europe 1. Deux tiers des Français mécontents de la justice. Faites-vous confiance à la justice. Vous intervenez si vous le souhaitez. Le débat qui continue avec mes invités dans quelques secondes.
Vos invités Mathieu Béliard jusqu'à 20h. Maître Laurence Roch, présidente du syndicat des avocats de France, avocate au barreau du Val-de-Marne. Youssef Badre, porte-parole du ministère de la Justice et magistrat. Et Christophe Soulez, chef de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.
L'Observatoire de la délinquance et des réponses pénales qui a réalisé cette étude publiée dans le Figaro ce matin. Deux Français sur trois mécontents de la justice. Alors, beaucoup d'enseignements, je ne suis pas sûr qu'on puisse tous les évoquer ce soir, mais Christophe Soulez, on apprend dans cette enquête que les Français ont le sentiment d'une justice de classe, qu'on ne sera pas jugé de la même manière en fonction de sa classe sociale. Et en même temps, on découvre dans cette étude que les couches populaires sont moins négatives vis-à-vis de l'organisation de la justice en France que les classes les plus aisées. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe ?
Vous avez effectivement un ensemble des personnes interrogées, notamment qu'on va retrouver en partie dans les classes populaires qui vont effectivement penser que la justice protège plutôt les puissants, rend des décisions qui ne sont pas nécessairement équitables, proportionnées. Et donc ça, effectivement, on va les trouver dans cette partie de la population. Et puis vous avez une autre partie de la population, toujours dans les classes populaires, qui vont porter un jugement plutôt, effectivement, pas satisfaire, mais en tout cas plutôt modéré sur l'institution judiciaire, alors que les plus sévères, c'est d'ailleurs assez paradoxal dans l'image qu'on pourrait en avoir, les plus sévères sont plutôt à trouver dans les classes aisées, dans les classes supérieures, avec là aussi un distinguo très important dans cette classe, c'est ceux qui vont être insatisfaits de la justice parce qu'on ne donne pas les moyens à la justice en matière de réinsertion, et ceux qui vont être insatisfaits parce qu'ils trouvent les peines prononcées par l'institution judiciaire pas assez sévères. Donc là, vous voyez bien qu'on est sur les classes supérieures, sur deux profils aussi très différents. Le motif d'insatisfaction n'est pas du tout le même.
Laurence Roch, il y a une justice de classe ?
Très concrètement, en matière pénale, il y a une justice de classe. Justice de classe que nous, on constate au quotidien, d'abord ne serait-ce que dans les procédures qui sont... il est évident que quand vous êtes dans des procédures de comparution immédiate ou dans des procédures d'urgence, il est très compliqué de faire une bonne justice. Et c'est cette justice-là quand même qui est la justice des pauvres, la justice du quotidien. Donc par définition, c'est quand même une justice de classe. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que il y a eu une étude américaine sur des algorithmes, puisque maintenant on est sur une justice prédictive. Il y avait donc des algorithmes qui avaient été mis en place pour voir un peu comment la justice était rendue. Et en fait, les algorithmes avaient majoré le critère presque raciste de la justice pénale aux États-Unis, qui montrait qu'il y avait manifestement n'était pas jugé de la même façon selon la couleur de peau. Sur ce que vous dites à propos des couches aisées, il y a deux cas de figure. Je pense qu'il y a tout d'abord ceux qui ont beaucoup de mal à accepter qu'il n'y ait pas finalement une impunité des cols blancs. Et moi, je suis plutôt contente que la justice pénale ne fasse aucune impunité sur les cols blancs. Et ceux-là ont en effet beaucoup de mal à accepter de passer devant la justice pénale. Et puis, il y a en effet toujours ce leitmotiv d'une justice qui serait laxiste. Et là, je pense que pour le coup, c'est plus une idée qui est répandue sans véritablement en fait, fondement. À partir du moment où on va voir dans les juridictions, on se rend compte que, contrairement à ce qu'on croit, et notamment, j'ai envie de dire, dans les cours d'assises, la justice est plutôt plus sévère qu'elle ne l'était au avant.
Youssef Badr.
Oui, bah, je ne peux que répondre évidemment sur ce qui est dit au départ. Moi, quand on me dit qu'il y a une justice de classe, évidemment que c'est quelque chose qui m'interpelle et quelque chose que je conteste totalement. Bah, je veux dire, c'est pas ce qu'on apprend à des magistrats qu'on forme après des années à l'École nationale de la magistrature. On nous apprend notamment le Je pense au magistrat du parquet, hein, puisque c'est eux qui orientent les poursuites. Le magistrat du parquet, il est tenu par un principe, c'est le principe de l'opportunité des poursuites. L'opportunité des poursuites, elle se fait en fonction de la gravité des faits et en fonction des éléments de personnalité. Et je peux vous garantir, je peux vous certifier que mes collègues n'agissent pas sur une justice de classe. La justice prédictive, je ne sais pas trop à quoi on fait allusion, peut-être qu'on pourra en débattre après. Moi, je vais vous dire, tout à l'heure, je vous disais que ça ne m'étonnait pas dans mon propos tout à l'heure en introduction. Ce constat, le problème en fait avec l'institution judiciaire, je vais vous dire à mon sens, c'est un des problèmes, mais celui-ci est un problème majeur, c'est qu'en fait, comme ça touche à l'affect, comme ça touche à l'intime et ça touche un peu la vie de tout le monde a un commentaire à faire dessus. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, je dis juste que quand vous avez une, notamment je pense par exemple à une affaire qui met en cause un puissant, vous avez des hommes politiques, des gens de premier rang qui s'immiscent dans l'institution judiciaire, qui font des commentaires. Et en fait, on peut en dire ce qu'on veut, j'ai des exemples en tête évidemment récemment, il y a quelques mois, il y a quelques années, mais il en reste toujours quelque chose dans l'opinion publique. Soit la justice est trop rapide, soit la justice est trop laxiste, soit la justice veut en faire un exemple. Et en fait, systématiquement pour les magistrats, et d'ailleurs j'englobe encore une fois pour moi toute la chaîne pénale, et y compris les avocats également, que ce soit partie civile ou en défense, mais ensuite après on pâtit de commentaires permanents qui sont apposés sur une procédure. L'institution judiciaire, c'est peut-être la seule institution où, alors même qu'elle fait son travail, elle a toujours des commentaires, où elle subit toujours des critiques de part et d'autre. Et je trouve que c'est assez difficile en fait d'évoluer et de rendre, j'allais pas dire une justice sereine, mais de faire un peu, de se mettre un peu des œillères et d'avancer en se disant, voilà, j'ai telle critique à mon endroit, ou et pour un magistrat, notamment un juge d'instruction ou plusieurs qui ont par exemple des affaires politico-financières là-dessus, de voir que systématiquement on fait feu de tout bois, ou en tout cas on a des critiques à droite à gauche, je pense que c'est très dur. Et je pense que dans l'opinion publique, ça marque aussi, et je pense notamment aux gens qui n'ont jamais eu affaire à la justice et qui se disent, de toute façon la justice, je le vois bien au quotidien, on le dit, donc si on le dit c'est que ça doit être vrai. Elle est soit trop laxiste, soit trop sévère.
Juste d'un mot, je vais vous redonner la parole, Christophe Soulez, mais Laurence Roch, juste pour éclairer ce point-là, quand vous parliez de justice prédictive, vous parliez de quoi ?
Ah ben, je parle tout simplement, puisque vous savez qu'il y a aujourd'hui une réforme qui vient d'ailleurs d'être adoptée de la justice. Il y a maintenant, en effet, dans le cadre de cette réforme, des algorithmes qui sont là pour venir en quelque sorte... Mais si, non, mais si, il va y avoir des plateformes avec un certain nombre d'algorithmes pour pouvoir notamment faire de la médiation. Et dans ce cadre-là, vous avez en effet toute une série de services qui sont en ce moment en train d'être mis en place sur ce qu'on appelle de la justice. Alors, quand on dit prédictive, c'est-à-dire de l'aide à la décision, c'est-à-dire qu'il va y avoir des algorithmes qui vont vous permettre de prédire quelle pourrait être la décision rendue en fonction d'un certain nombre d'éléments que vous rentreriez pour aider à la décision.
Youssef Badr ?
Aucunement. Il n'y a absolument aucune référence à des algorithmes. Les médiateurs, ou en tout cas la médiation auquel on fait référence, c'est un être humain, le médiateur. Le médiateur
Les est plateformes, là pour... non, excusez-moi, vous avez aujourd'hui, notamment dans la procédure civile aujourd'hui, vous avez, et ça vient de passer, la possibilité d'avoir ce qu'on appelle de la médiation avec des plateformes en ligne. Ces plateformes en ligne, il y aura de l'algorithme.
Ah, mais d'accord. Ah, bah non.
Voilà. Ah, bah d'accord.
Non,
bah,
mais non.
C'est, mais c'est pour qu'on comprenne, parce que moi, je le dis très clairement, je ne sais pas où on est.
Alors, moi, je vais vous dire, je vais vous dire très clairement, j'ai mis du temps à comprendre ce que Mme Roch voulait dire, puisqu'en fait, elle mélange deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas d'algorithme, en fait, dans la réforme de la justice. Il y a effectivement, on a voulu créer, on a créé, parce qu'en fait, les gens, on s'est rendu compte que les gens en fait, avaient recours à des plateformes de résolution des litiges en ligne. Sauf que ces plateformes-là racontent pour les justiciables n'importe quoi parfois. Ils saisissent là-dessus pour avoir, quand ils ont un petit litige, pour les petits litiges du quotidien, et en fait, on leur raconte n'importe quoi. On a voulu, nous, parce qu'il y a une demande, répondre en créant une plateforme de résolution des litiges en ligne, labellisée ministère de la Justice, avec des médiateurs au bout de l'écran, pour leur dire voilà l'état du droit, voilà ce que vous pouvez demander. C'est juste ça. Mais je ne suis pas certain que c'est c'est un rapport voilà, avec,
non, mais avec je voulais juste qu'on comprenne bien et je pense qu'on travaillera là-dessus sur Europe 1 à nouveau parce que moi je ouais, découvrais complètement. Nous sortons de cet aspect-là. Christophe Soulez, c'était à vous il y a 3 minutes.
Oui, non, moi, je voulais dire aussi que je pense qu'il y a, une problématique qui est importante pour l'institution judiciaire, c'est que le temps de l'institution judiciaire n'est pas le même que le temps aujourd'hui de la société dans laquelle on vit. L'institution judiciaire, elle s'inscrit dans un temps qui est généralement assez long, mais c'est pas de sa faute, c'est que les enquêtes sont longues, la collecte des preuves est longue, et on est dans une société aujourd'hui, on le voit bien, de la communication, de l'instantanéité, et c'est vrai que c'est difficile pour l'institution judiciaire d'expliquer justement le temps long. C'est un peu le même débat qui court aussi parfois du côté des forces de police quand vous rencontrez la population dans certains quartiers qui vous disent mais regardez, on les connaît tous, ceux qui vendent de la drogue, ils sont jamais interpellés, etc. sans savoir derrière, voilà, toute la complexité de monter une procédure, de collecter des preuves, et ça je crois que c'est un gros problème dans notre société aujourd'hui, c'est de pouvoir effectivement expliquer le recul nécessaire et la complexité auquel on a à faire face pour qu'une procédure tienne la route et pour évidemment amener éventuellement la condamnation après des personnes qui sont poursuivies. Et je crois que ça, c'est vraiment un des problèmes majeurs aujourd'hui.
19h46. Europe 1. Et justement, avec ces questions que vous évoquez à l'instant, Christophe Soulez, on touche du doigt aussi le procès en laxisme qui est fait à la justice. On va en parler dans un instant. Vous restez bien sur Europe 1.
Vos invités Mathieu Béliard sur Europe 1, Maître François Roch, présidente du syndicat des avocats de France, avocate au barreau du Val-de-Marne.
Laurence Roch.
J'ai dit, pardon.
Françoise, mais c'est bien Laurence.
C'était pas du tout écrit Françoise. Laurence Roch, pardonnez-moi. Christophe Soulez, chef de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Et Youssef Bad, porte-parole du ministère de la Justice, magistrat également.
D'un mot, parce que c'est pas l'objet de notre débat, mais ça me revient dans l'actualité. Nous avons traité la décision du Conseil constitutionnel de casser l'article phare de la loi anti-casseurs qui finalement retirait des prérogatives à la justice en permettant au préfet d'interdire à des manifestants de manifester. C'est une bonne nouvelle, Laurence Roch?
Ah bah oui, c'est une très bonne nouvelle parce qu'il y avait là une confusion très grave dans les pouvoirs puisque finalement l'interdiction de manifester, c'est quand même une interdiction grave à une liberté qui est une liberté constitutionnelle importante, et que ce soit confié à l'autorité administrative plutôt qu'à l'autorité judiciaire, pour nous, en effet, c'était extrêmement grave en termes de liberté individuelle.
Youssef Badr, la séparation des pouvoirs est garantie par le Conseil constitutionnel?
Oui, sûrement, si le Conseil constitutionnel l'a dit, sûrement, assurément.
Christophe Soulez, la question de la récidive, la question des peines prononcées qui ne sont pas exécutées. La justice se voit souvent opposée un procès en laxisme. Est-ce que la justice en France est laxiste?
Alors en fait, j'ai une double réponse. La première réponse, c'est que je pense que c'est très difficile déjà d'englober ce terme-là sur l'ensemble de l'institution judiciaire, sur l'ensemble des infractions, etc. Je me souviens qu'au moment où il y avait eu la colère des fonctionnaires de police et il y a un an et demi, j'avais regardé un peu justement les condamnations prononcées par les tribunaux en matière de violence contre les fonctionnaires de police, et contrairement à l'idée répandue même à l'époque par les syndicats de police, j'avais pu constater qu'au contraire, il y avait une plus grande sévérité des peines prononcées, tant en ce qui concerne, je dirais même au départ, les poursuites, mais surtout en ce qui concerne le quantum des peines après. Et puis, je pense, la deuxième partie de la réponse, c'est qu'il est difficile de pouvoir répondre à cette question parce que, et c'est ça la critique que je fais un peu à l'institution judiciaire, c'est qu'on manque beaucoup aujourd'hui, contrairement notamment aux pays anglo-saxons, d'études, d'analyse sur l'évaluation des politiques pénales, sur l'évaluation des peines qui sont prononcées, sur l'efficacité des peines. Et quand on en discute très souvent avec des magistrats qui travaillent en juridiction, hein, et notamment, par exemple, avec des procureurs, ils le disent eux-mêmes, qu'il manque d'outils qui leur permettraient de dire si les décisions qu'ils prennent sont efficaces, sont opportunes, sont adaptées ou sont utiles. Et donc, c'est pour ça qu'il est... Je pense, encore une fois, en regardant, et il faut prendre aussi en compte l'augmentation importante de la population carcérale. Si la justice était si laxiste que ça, la population carcérale n'augmenterait pas autant qu'elle augmente depuis maintenant 10-15 ans. En revanche, effectivement, et puis il y a un autre aspect que je préciserai aussi, c'est qu'on a aujourd'hui une population qui est aussi de moins en moins tolérante face aux infractions, face à la transgression de la norme, et donc effectivement qui attend beaucoup plus des pouvoirs publics en général et de l'institution judiciaire par rapport à des infractions qui pouvaient être banalisées à certaines époques. Donc je dirais, je vous fais une réponse en trois temps.
Une réponse de Normand. Youssef Badr, la justice laxiste,
alors, effectivement,
c'est injuste.
Oui, je pense que c'est injuste et en plus surtout c'est infondé, je pense. C'est injuste d'une part, enfin je veux dire c'est infondé d'une part quand on constate effectivement les statistiques pénitentiaires. On parlait tout à l'heure des majeurs, une population carcérale, enfin population sur population carcérale, surtout des chiffres qui augmentent systématiquement tous les mois et on l'oublie souvent de le dire. Aujourd'hui, on a un taux de mineurs incarcérés également. Pour des gens qui pensent que la justice des mineurs est trop laxiste, on avait au 1er mars un peu plus de 800 mineurs incarcérés, ce qui sont à peu près des taux, enfin des chiffres qu'on avait dans le début des années 2000. Donc le premier, c'est un sentiment effectivement injuste. Le deuxième, c'est qu'il existe quand même des statistiques qui sont données dans les chiffres clés de la justice et qui quand même nous donnent un certain nombre d'enseignements qui sont assez intéressants. On constate par exemple que le taux de récidive est plus élevé, il est d'environ je crois 41% lorsque les personnes sont condamnées à de l'emprisonnement ferme. Donc ça interroge aussi. Ça interroge aussi sur le sens de la peine et sur le sens de l'emprisonnement ferme. Est-ce que quand on sanctionne quelqu'un avec de l'emprisonnement ferme et que les gens disent non mais il n'a pas été sanctionné parce qu'il n'est pas parti en prison, parce qu'il n'a pas pris de l'emprisonnement ferme, est-ce que finalement c'est la bonne réponse? Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la garde des Sceaux a voulu notamment tout un pan sur le sens et l'efficacité des peines. Et d'ailleurs tout un pan qui je pense est très juste et qui a été à mon avis injustement critiqué sur est-ce que quelqu'un qui est condamné à 6 mois, sa place est vraiment en détention? Est-ce que quelqu'un qui est condamné à 8 mois, est-ce que sa place est vraiment en détention pour les faits qu'il a commis encore une fois? Et le troisième élément, c'est qu'effectivement je rejoins évidemment ce qui a été dit et ce fameux projet de loi qui maintenant a été validé en partie par le Conseil constitutionnel. Figurez-vous que quand on prend le temps de le lire, il y a aussi une disposition, il a été demandé qu'on puisse faire une étude sur la récidive à hauteur, je crois, de l'horizon 2020 et qu'on puisse partir concrètement du type de peine qui a été prononcée et du type de sanction, c'est-à-dire la semi-liberté, le placement sous brasse électronique mobile. Donc une étude a été demandée pour qu'on puisse voir concrètement quelles sont les peines dans lesquelles il y a le moins de récidive, dans lesquelles il y a le plus de récidive, quelles sont celles où il y a moins de réitération. Donc une étude assez poussée, effectivement, qui pourra servir aussi d'outil pour les magistrats du siège.
Laurence Roch.
Bah moi, sur le sens de la peine, je suis complètement d'accord sur le fait, mais c'est toujours très difficile à expliquer, et Robert Badinter l'avait très bien dit, c'est toujours très difficile à expliquer aux citoyens le sens de la peine quand il s'agit de la prison. C'est-à-dire qu'ils ont toujours le sentiment que si les gens ne sont pas en prison, il y a du laxisme, et que finalement, la prison, on est toujours très bien traité, et dans des périodes très difficiles comme les nôtres, c'est compliqué de faire comprendre à des gens que finalement, la prison est criminogène. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et là, pour le coup, c'est vrai que le sens de la peine, essayer absolument d'avoir des peines alternatives ne peut que, en effet, renforcer la sécurité des concitoyens, parce qu'on sait bien que la prison entraîne la prison et que c'est très, très compliqué, en fait, de considérer... La prison ne peut pas être un projet en soi. Donc, elle doit forcément, d'abord, permettre une réinsertion. Et il y a des alternatives à la peine de prison pour éviter, justement, cette criminalisation. Maintenant, il faut quand même dire aussi autre chose. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que le sentiment aujourd'hui de laxisme sur la justice serait plus fort qu'avant. Quand on regarde, on a toujours c'était mieux avant, et en même temps on a toujours le sentiment que les citoyens trouvent toujours que la justice est trop laxiste. Alors là où je rejoins ce que vous disiez, c'est qu'il y a beaucoup de réformes qui sont faites sans qu'on ait pris le temps du recul en effet des études d'impact et de déjà tirer des enseignements d'un certain nombre de statistiques sur quelles seraient finalement les réformes à entreprendre. Maintenant, encore une fois, la justice est humaine. Donc par définition,
elle est faillible.
Et c'est fondamental qu'elle le soit aussi. Parce que du coup, étant humaine, elle est aussi adaptée à l'homme.
Merci à vous trois d'être venus échanger dans un calme... Un sacré contraste avec notre débat sur l'homéopathie hier soir. Christophe Soulez, chef de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Vous avez dirigé cette étude, la justice pénale et ses critiques, analyse de l'opinion sur la justice et les tribunaux dans le traitement de la délinquance. Si vous êtes encore en train de rentrer chez vous et qu'un kiosque est ouvert, achetez le Figaro pour le coup. Non, mais vraiment.
Elle est sur Internet, hein, donc on peut même l'avoir en entier sur Internet.
Même quand on n'est pas abonné, je sais
oui,
plus.
Oui, oui, okay. Si.
Youssef Badr, porte-parole du ministère de la Justice. Magistrat, merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions en studio. Ainsi que Maître Laurence Roch, présidente du syndicat des avocats de France, avocate au barreau du Val-de-Marne. Merci à vous trois.
Merci.
D'un mot, avant de passer la main à Émilie Mazoyer, d'un mot, un tout petit rappel. Demain matin, entre 7h et 9h, Nikos Aliagas sera en direct du CHU de Lyon, de l'hôpital Édouard Herriot, pour une matinale consacrée à un autre service de l'État, consacré aux urgences, donnant la parole au personnel qui œuvre nuit et jour dans cet hôpital Édouard Herriot à Lyon. Nikos Aliagas est dans le train, il est en train d'arriver à Lyon. Et vous l'écouterez demain entre 7h et 9h.